Vous voyez que le problème est très différent pour nous que pour Aristote. Parce que Aristote, se trouvant après Platon, on ne mettait pas en doute l'ousia. Platon est sans doute le premier philosophe qui a parlé de l'ousia. Ça, je crois. Avant, les philosophes grecs parlaient de la phusis, de la nature. Et Platon va plus loin et puis essaie de trouver qu'est-ce que c'est que cette ousia. Non, ce serait très intéressant de comprendre qu'est-ce que ça représente. C'est comme toujours l'introduction d'un mot dans un vocabulaire philosophique, vous voyez. Autrement dit, le passage de ce que représente la phusis des premiers Grecs. Les premiers Grecs sont au niveau de la nature. La découverte du nous, ça c'est avant Platon, Anaxagore. La découverte du nous, donc la découverte de l'esprit. Et puis la découverte de l'ousia. La substance. L'étance, hein, comme un briqueur. Vous voyez, c'est intéressant de voir les deux, parce qu'au fond, c'est le désir de dépasser cette dualité. Je crois que c'est comme ça que se situe l'ousia dans la pensée grecque. Il y a les deux. Hein. Il y a l'esprit, vous savez, ce que dit le nous, ce que dit Anaxagore, quand il dit le nous, séparé de la phusis, gouverne tout. Segregatus ut imperet. Il est séparé pour commander. Et tout l'univers est commandé par le nous. C'est très beau, cette première vision du nous, hein, l'apparition du nous, donc de l'esprit, dans la philosophie. Et au fond, il y a une certaine opposition, segregatus, il est séparé. Il est séparé de la phusis pour ordonner tout. Et le nous apparaît tout de suite comme principe d'ordre. Et alors, le dépassement de la nature et de l'esprit se fait par l'ousia. Je crois que c'est ça l'idée profonde de l'ousia chez Platon. C'est de dépasser. L'ousia est au niveau de l'esprit et l'ousia est au niveau de la phusis. Mais c'est le dépassement de la phusis. Alors Platon ne le fait pas parfaitement. Ce sera Aristote qui le fera parfaitement, ce dépassement du nous et de la phusis. Mais je crois que c'est intéressant de le poser comme ça parce qu'on peut se dire, mais pourquoi l'ousia? Pourquoi ce besoin? Eh bien c'est pour comprendre que l'être est présent dans l'esprit et que l'être est présent dans la phusis. La phusis est dans l'ordre du devenir. Et l'esprit est au-delà du devenir, puisqu'il est au-delà de la génésis. La génésis, c'est le devenir. Hein. La génésis, c'est la corruption. C'est la... Bon, alors, la phusis, elle est source de génésis. Elle est source du devenir. Et le nous est au-delà. Il est incorruptible. Donc il est au-delà. Alors, y a-t-il un lien entre les deux? Entre la phusis et le nous? Y a-t-il un lien entre les deux? Pour découvrir le lien et non pas rester dans la dualité, il faut découvrir l'être en profondeur. Oui? Je crois que c'est ça l'idée de la découverte de l'ousia en philosophie grecque. C'est de dépasser l'opposition entre corruptible et incorruptible. Dépasser l'opposition entre les deux. La phusis, c'est de l'ordre du corruptible, le nous, c'est de l'ordre de l'incorruptible, il faut dépasser. Le visible et l'invisible, vous voyez, encore une autre manière, pour essayer de découvrir quelque chose qui, de fait, maintient une certaine unité entre les deux. Et ce n'est que dans la mesure où je découvre l'ousia que je découvre le dépassement entre la phusis et la nous. Alors, Platon, encore une fois, ne le fait pas très très bien, mais il a quand même senti ce qu'il introduit l'ousia. Mais c'est souvent comme ça, du reste, notre développement intellectuel. Hein. C'est qu'on voit une opposition, on se dit, il y a quelque chose de commun. Alors, qu'est-ce que c'est que ce quelque chose de commun, ou il faut aller plus loin? Et pour aller plus loin, alors, il faut découvrir, justement, ce quelque chose qui unit la phusis et l'esprit. Et au fond, c'est le gros problème d'Aristote, quand il essaie de découvrir le dépassement entre l'esprit et la nature, pour découvrir la substance. C'est dans ce sens-là qu'il découvre l'âme, l'âme qui est substance. Voyez. Platon découvre bien l'âme, l'âme est substance, du côté du nous. Et elle n'est pas phusis. Aristote découvre que l'âme sera source de l'être et du devenir. Bon, alors, pour nous, le problème est beaucoup plus complexe que pour Aristote et Platon. Pourquoi ? Parce que pour nous, nous sommes en présence d'une philosophie qui s'est idéalisée, il faut bien le voir, une philosophie qui est partie dans une perspective idéaliste, c'est-à-dire le primat de l'idée, le primat de la forme sur la réalité. Et petit à petit, on est arrivé à nier la substance. On peut dire qu'à partir de Hegel, on a parlé de la substantialité. On commence à supprimer la substance. Et alors quelqu'un comme Hamelin, qui est petit-fils de Hegel, qui est le hegélien français, donc plus clair, hein. Hamelin qui est un esprit matheux, et donc qui est assez clair comme esprit matheux, Hamelin dit textuellement que la substance ne signifie rien. Il faut plutôt mettre la relation au cœur de toute la philosophie. Vous voyez, ça c'est très important à comprendre ça, parce que la substance est source d'autonomie, tandis que la relation est source de toute communication. À partir du moment où vous acceptez cette position hegélienne, transformée par Hamelin, vous ne pouvez plus comprendre l'autonomie de la personne. Et vous définissez la personne par la communication. Ce que nous voyons aujourd'hui. Définissez. Alors, vous voyez, la vie contemplative, qu'est-ce que c'est ? C'est la communication. Il n'y a plus de contemplation, il ne peut plus y en avoir. C'est important parce que ça, c'est ces choses-là qui forgent petit à petit. Vous voyez, quand on vit après Hegel et que le point de vue de la substance disparaît, au niveau de la personne, on ne comprend plus l'autonomie. Et c'est très vrai, c'est le grand mal de notre monde d'aujourd'hui. Les gens se définissent en fonction des autres. Ils n'ont plus aucune personnalité. Ils se définissent en fonction des autres. Et avant de dire quelque chose, il regarde vite. Hein. Est-ce que ce spectacle est beau ? On va regarder la critique. Bon, et si la critique est bonne, on illustre le beau. Vous voyez, vous jugez en fonction des autres. Est-ce que ce beurre est bon ? Ça dépend. Tout dépend de la réclame. Alors à ce moment-là, c'est ce que Grasset dit. Bon, Grasset disait qu'il pouvait lancer n'importe quel roman s'il avait une certaine valeur. Étant donné le pouvoir de la propagande, le pouvoir de la publication. C'est un pouvoir tel qu'au fond, les gens deviennent incapables de juger eux-mêmes. Oui. Alors, quand on en est là, on est bon pour le socialisme. Oui. On est bon pour le socialisme, parce que pour le socialisme, la tête pense et tous les autres se pètent. On est bon pour le communisme, c'est exactement ça. Parce que s'il n'y a pas une résistance de l'intérieur, ben alors on est relatif au tout. Et c'est le tout qui l'emporte. Et le socialisme, c'est ça. C'est le tout qui l'emporte sur les parties. Les parties n'ont plus d'autonomie, elles sont toutes relatives au tout. Et le tout, comme on sait que ça n'existe pas, donc c'est nécessairement un qui est à la place du tout et qui transmet. Il y a un petit QG qui transmet. Et les autres répètent. Parce que le tout, ça n'existe pas. Vous dire que le tout est plus grand que la partie, mais non, il n'est pas plus grand que la partie, puisque le tout n'existe pas. C'est nécessairement quelqu'un qui pense au nom du tout, au sens très fort. Alors, il faut essayer de redécouvrir dans notre monde d'aujourd'hui, et ceci c'est bon, parce que tant que nous n'avons pas fait cette redécouverte, la grâce, alors, je reprends, pour nous, hein, par rapport à nous, la grâce qui nous fait comprendre que par la foi, nous sommes directement reliés à Dieu. Il y a tout le problème de l'Église. Il y a une théologie socialisante, il ne faut pas l'oublier. Et il y a une théologie contemplative. Et c'est le dilemme. Ou vous êtes en face d'une théologie contemplative, qui montre le primat absolu de Dieu et de la contemplation, ou vous êtes en face d'une philosophie socialisante, qui donne le primat de l'Église. Et l'Église remplace Dieu. Je fais une petite caricature, hein, Mais au fond, c'est ça, il faut bien saisir, c'est très important de saisir ça. Parce que c'est comme ça qu'une philosophie socialisante, au service de la foi, vous donne une théologie socialisante. Il ne faut pas être autrement. Et alors, petit à petit, vous arrivez à faire le tout. L'Église est le tout. Vous voyez, la grâce vous lie en premier lieu au Christ, qui est notre Dieu et notre Sauveur. Par le moyen de l'Église. Par le moyen de l'Église. Mais l'Église n'est pas la fin. Ma foi ne se définit pas en fonction de l'Église. Elle se définit objectivement par le point de vue du Christ. Le Christ est lié à l'Église, je ne peux pas les séparer. Mais je dois comprendre que l'Église est toute relative au Christ. Donc je vis dans l'Église, mais au-delà de l'Église. Au-delà, comprenez bien. Au-delà, en ce sens que j'atteins la tête. L'Église véritable est tout entière tournée vers le Christ. Alors, par le point de vue de la grâce, je sais très bien qu'il y a en moi une autonomie divine. Cette autonomie divine me permet de choisir le Christ directement et d'être en relation personnelle avec lui. Et donc d'opter et de choisir pour la solitude, c'est-à-dire la contemplation. C'est ça le propre de la grâce. Je suis enfant de Dieu, et enfant de Dieu, le lien qui existe entre le Père et moi est un lien d'amour qui me permet de choisir Dieu, de choisir le Christ, comme mon absolu. Hein, l'alliance du Père avec le Fils bien-aimé. Et c'est cette alliance du Père avec le Fils bien-aimé, en qui le Père a mis toutes ses complaisances, qui fait comprendre cette possibilité de solitude, d'absolu vis-à-vis du Christ. Une contemplation vis-à-vis du Christ m'introduit dans la très sainte Trinité. Ceci fait partie essentielle de ma foi. Suivre le Christ. En suivant le Christ, je quitte tout. Si je veux vraiment le suivre jusqu'au bout. Suivre le Christ jusqu'à la croix. Et suivre le Christ jusqu'à la croix, à la croix, il quitte tout. Ça, il a tout quitté à la croix. Pour n'être plus que relatif au Père. Il est entièrement relatif au Père. Il est dans la suprême solitude. Le désert chrétien, c'est la croix. C'est ça le désert chrétien. Le désert, le véritable désert, où on est en face de Dieu. Pas le désert idéal. Le désert réel, c'est le mystère de la croix, où il est face au Père. La croix glorieuse. La croix qui implique justement la victoire de l'amour. Ceci, c'est notre mystère de foi et de grâce. Il s'enracine dans notre âme spirituelle. Il s'enracine dans l'homme. Alors vous comprenez, si j'ai une conception philosophique, socialisante, post-hegélienne, où je comprends que la personne humaine ne se développe que dans la relation, que dans la communication. Il y aura un dualisme constant entre mon exigence personnelle et la grâce. Et la grâce ne sera plus ce qui vient perfectionner ce qu'il y a de plus profond dans la nature humaine, mais la grâce sera perpétuellement quelque chose qui va contre ce que représente la conception de l'homme au plan philosophique. Alors quand on est comme cela, la grâce a quelque chose donc de violent, et si la grâce a quelque chose de violent, on la considère facilement comme quelque chose qui vient de l'extérieur. Et là vous êtes en face de la greffe qu'au bout d'un certain temps on rejette parce qu'elle n'est plus assez en connaturalité. Une greffe qui n'est plus assez en connaturalité avec le tronc qui la reçoit, il y a un phénomène de rejet. Et alors le phénomène de rejet est préparé. C'est très astucieux ce que fait le démon, vous savez. Le démon ne peut pas directement corrompre la foi et la grâce. Mais le démon corrompt la nature. Pas directement, par les conséquences du péché. Alors, ce qu'il faudrait, c'est comprendre que cette conception de la relation et de la communication comme personne, définition de la personne, provient des conséquences du péché. Et c'est facile à comprendre, c'est l'aspect d'orgueil. C'est très curieux. Au fond, l'idéalisme a à sa racine un orgueil intellectuel. À la place de se soumettre au réel, on domine. Et alors, l'orgueil intellectuel arrive à se cacher sous soi-disant une humilité, c'est de se définir uniquement par l'autre. Très curieux. Et se définir, donc, ça paraît beaucoup plus humble. Ça paraît beaucoup plus humble de dire, mais oui, ma personne humaine, c'est la communication, c'est l'autre. Mais pas du tout. Parce que l'autre, dans cette conscience, vous pouvez le dominer. Tandis que la réalité, l'exister qui est en vous, alors il est fondamental, il est au-delà de vous. Tandis que là, je reste dans l'ordre de l'intentionnalité. Et ma personne se définit dans l'ordre de l'intentionnalité. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est très important, il me semble, pour comprendre un peu la situation dans laquelle on se trouve actuellement. Si je fais l'étude philosophique de notre monde d'aujourd'hui, et on doit le faire d'abord, beaucoup plus que sociologiquement, parce que ça c'est une conséquence. Si j'étudie par rapport à la philosophie, c'est facile à comprendre, c'est très très facile, et c'est toujours par rapport à la personne qu'on comprend tout de suite. Parce que la personne est quand même le nœud. Donc c'est très facile à comprendre que la grâce, traditionnellement dans l'Église, prend la grande position de saint Thomas. La grâce est premièrement ce qui me fait enfant de Dieu. Et elle s'enracine en moi. Elle s'enracine dans mon être. Mais elle me fait premier enfant de Dieu. La grâce n'est pas contre la nature, elle est au-delà de la nature. Mais si j'ai une conception idéaliste de la nature, une conception idéaliste de la personne, alors à ce moment-là, la grâce devient quelque chose qui n'a plus aucun soutien dans la nature. Alors, où je pars dans un illuminisme en disant la grâce avant tout, la grâce avant tout, la grâce avant tout, je nie la nature, je ne veux pas la regarder. Alors, ça tient un certain temps quand on est jeune et idéaliste. Et puis, il y a les retombées du lendemain, c'est qu'on s'aperçoit, mais non, c'est pas du tout. La grâce, c'est pas. C'est ça, mais pour ma nature avant tout, alors je me rattrape après. Vous voyez ? C'est vrai, si on ne respecte pas l'ordre que Dieu a voulu, au bout d'un certain temps, on considère que la grâce est une greffe qui ne s'enracine pas assez dans notre nature humaine. Et à ce moment-là, on la rejette. Oui. Ou, autre chose, plus astucieuse, c'est qu'on a une nouvelle théologie. Et la nouvelle théologie se fait à partir de mon idéalisme. Et la théologie faite à partir de mon idéalisme, vous comprenez, j'ai à partir de là une nouvelle conception de la théologie, une nouvelle conception de l'Église. C'est très, très, très mystérieux, une nouvelle conception de l'Église. Et cette nouvelle conception de l'Église, c'est de considérer que, au fond, la foi, la charité, l'espérance et la charité me mettent en premier lieu en relation vis-à-vis de mes frères, dans le tout de l'Église. Et pas en premier vertu que la grâce. Oui. Et alors c'est le tout qui, à la place d'être l'Église, c'est le milieu. C'est le milieu vital. C'est très important, c'est le milieu vital. Mais ce milieu vital, ce qui dispose, parce que Dieu se sert de ce milieu vital comme d'un instrument. Mais il ne faut pas que ce milieu vital qui dispose, deviennent ce qui détermine, ce qui spécifie. Le jour où ça détermine et ça spécifie, alors l'Église devient un obstacle à la contemplation. Et c'est ça, je crois, qu'on voit aujourd'hui dans beaucoup de théologies qui ne sont plus faites à partir d'une métaphysique, mais qui sont faites à partir d'une anthropologie. Et d'une anthropologie idéaliste qui refuse la métaphysique, donc qui refuse le jugement d'existence, et nous sommes donc en présence d'une espèce de tout. L'Église devient le tout. Vous voyez ? Alors c'est une reprise beaucoup plus ecclésiastique de « sans l'Église, pas de salut ». Vous voyez ? J'allais dire sans l'Église, pas de Dieu. On arrive presque à dire ça. C'est le point de vue social. Je dis ça, c'est parce que je viens de voir un étudiant, un ex-étudiant de Fribourg, qui a été à la Grégorienne, et puis qui est maintenant à Paris. Je le voyais dimanche, juste avant qu'il passe un examen. Alors, il me dit, la première année que j'étais là, il a été envoyé par son évêque, on comprend très bien. Il a été envoyé par son évêque parce qu'il avait ses diplômes de la Grégorienne et qu'il était sans doute le seul licencié de théologie du diocèse. Alors, on l'envoie immédiatement à Paris pour la catéchèse, immédiatement. Alors, il se plonge dedans. Première année, il dit, je ruais dans les hangars en disant, mais ce que vous enseignez, c'est des choses. Alors, je me suis fait très mal voir, j'ai eu de très mauvaises notes. L'évêque m'a dit, faites attention. Alors, maintenant, je m'étais. On m'a dit, je dois passer un examen ce soir. Est-ce que je dois dire ce que je crois être la vérité ou ce que le professeur m'a enseigné? Je vous passe un examen, dites ce que le professeur vous a enseigné. Et puis c'est tout. Et puis passez votre examen. Et puis ayez une très bonne note. Et puis après, vous ferez ce qu'en conscience vous devez faire. Vous pouvez pas faire autrement. Parce que la charité fraternelle consisterait à corriger le professeur, mais comme le professeur est incorrigible, on ne peut pas le corriger. Donc à ce moment-là, il s'agit tout simplement. Vous savez, c'est comme un prisonnier, il passe en dessous. C'est le propre du prisonnier. On est prisonnier d'idéologie et qu'on ne peut pas empêcher, qu'on soit réaliste et qu'on comprenne. Et il me disait tout simplement qu'on enseignait Durkheim au point de vue philosophique. Et Durkheim, l'absolu de la société, on voit très bien. Et tous les concepts proviennent de la société. Et c'est encore actuellement comme ça. Alors je lui dis, vous pourrez dire à votre professeur que l'Église est toujours en retard. Parce qu'au point de vue philosophique, plus personne n'enseigne Durkheim aujourd'hui. Mais ça continue de s'enseigner encore, vous voyez, dans des lieux privilégiés. Ceci, c'est important de comprendre, parce que c'est le drame d'aujourd'hui, ça. C'est le drame d'aujourd'hui, c'est le drame de comprendre que, de fait, à partir d'une philosophie socialisante, dans le sens socialisant au plan philosophique, je ne prends pas au point de vue politique, ça c'est tout à fait différent, mais au point de vue social, au point de vue politique, c'est-à-dire le tout est avant la partie. C'est ça le point de vue profond. Le tout est avant la partie. C'est très vrai au niveau quantitatif, quand il s'agit d'une tarte. Le tout est avant la partie. Là, il faut la tarte entière avant qu'il y ait des parties. Ça, c'est sûr, les parties proviennent de la tarte. Mais quand il y a l'esprit, c'est l'inverse. C'est la personne qui est avant le tout. Parce que c'est la société qui est constituée par la personne. Dieu n'a pas fondé une société avant de fonder la personne. C'est la personne qui est source de la société. Et donc il y a dans la personne quelque chose de plus que la société. Et c'est propre de l'esprit. C'est qu'il est capable de découvrir une finalité qui est au-delà du tout. C'est ça que l'Église n'a cessé de rappeler. Vous voyez ? C'est le problème de l'enseignement libre. L'Église montre que, de fait, la famille, ce sont des personnes qui s'aiment et donc qui gardent une liberté. Et qui gardent une certaine liberté. Ils gardent une certaine liberté parce qu'il y a une finalité qui est au-delà du tout. Le tout ne me donne pas ma finalité. Si je suis un esprit, si je ne suis qu'une partie quantitative, alors à ce moment-là, il est évident que le tout est plus. Alors, vous voyez, je vous dis ça, c'est parce que pour vous montrer que le problème de la substance que nous cherchons maintenant, c'est ce problème-là, où trouver en moi, dans ma personne humaine, où trouver le principe d'autonomie qui me permet de comprendre que la grâce ne détruit pas la nature et que la grâce ennoblit la nature et permet à un esprit de rejoindre immédiatement Dieu. Vous voyez, c'est très curieux, mais vous pouvez dire que le problème métaphysique de la substance, c'est le fondement qui légitime en dernier lieu la contemplation et la solitude. Si vous supprimez la substance, vous supprimez la possibilité de justifier philosophiquement la contemplation et la solitude. Vous supprimez la possibilité de comprendre que la grâce ennoblit la nature et ne la détruit pas. Parce qu'autrement, vous aurez l'opposition entre les deux. C'est ça l'intérêt, vous voyez. Parce qu'autrement, on dit, bon, la substance, Aristote a dit ça, très bien, on fait de l'archéologie. Non, on ne fait pas d'archéologie. On fait quelque chose qui est primordial pour nous. le salut de l'esprit, c'est-à-dire le salut de la personne humaine dans son indépendance profonde. Mais l'esprit enraciné dans l'être. Pas l'esprit uniquement à la manière de Feuerbach, mais c'est l'esprit enraciné dans l'être. Parce que l'esprit qui n'est pas enraciné dans l'être est un esprit qui ne trouve plus sa finalité. L'esprit ne trouve sa finalité qu'en rejoignant l'être. Et en rejoignant par le fait même son bien, la vérité. Alors, c'est simple pour vous montrer ça, que de fait, nous sommes dans cette situation-là, post-hégélienne, la situation post-hégélienne. La situation post-hégélienne, c'est que le tout l'emporte sur la partie. La philosophie hégélienne, c'est la philosophie du tout. Et à partir de Hegel, quand je commence à faire une théologie hégélienne, le tout est avant la personne. C'est effrayant. Alors, vous ne respectez même plus la tête. Qui est le Christ. Parce que le Christ n'est pas le tout, il est une personne. Et la très sainte Trinité n'est pas un tout, elle est trois personnes dans l'unité. C'est pas du tout un tout. Une philosophie du tout ne peut absolument pas sauver la contemplation, ne peut absolument pas sauver le mystère même du Christ comme tête. Alors vous voyez, tout est à l'avenant, c'est la famille aussi, c'est la même chose. C'est la suppression de la famille. Parce que la famille est nécessairement prise relativement au tout. Et comme le tout politique est plus grand que le tout de la famille, c'est le tout politique qui relativise la famille. Parce qu'on oublie la personne. Tandis que quand vous regardez la personne, vous voyez que la famille a quelque chose de plus que le point de vue politique, parce qu'elle repose sur un amour personnel de deux êtres avec une alliance avec Dieu dans la fécondité. Alors vous respectez la famille comme ayant quelque chose d'irréductible au tout. La famille a quelque chose d'irréductible, quelque chose de plus fondamental. Et tout cela repose sur la substance, au point de vue métaphysique. C'est pour ça que c'est important de redécouvrir dans notre monde d'aujourd'hui, et c'est pas commode, de redécouvrir dans notre monde d'aujourd'hui qu'est-ce que c'est que la substance. Et en découvrant la substance, vous découvrez la personne humaine par rapport à l'être. Exactement comme on a fait, vous voyez, comme on a fait le dépassement, pour que vous voyez bien ça. Exactement comme on a fait le dépassement du moi-conscience, ou la conscience du moi, avec le jugement d'existence. Il y a un dépassement. On a dépassé le moi-conscience pour découvrir le jugement d'existence, mon être. Et non pas ma conscience. Ici, c'est la même chose. On va essayer de découvrir l'au-delà de la personne qui est la substance. Parce que je pourrais à la rigueur rester au niveau de la personne en disant je reste au niveau de la conscience. Non, découvrons l'au-delà, l'enracinement de la personne dans l'être. Comme nous découvrons l'enracinement du moi-conscience dans l'être, par le jugement d'existence. Oui, c'est ce dépassement. Alors si vous me dites pourquoi ça c'est tellement plus beau l'être, mais c'est parce que justement, quand je reste dans la conscience, je reste dans l'ordre de l'intentionnalité. Et je ne peux pas rejoindre Dieu. Il faut s'arrêter maintenant, hein, quelques minutes. L'induction de la substance, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Vous voyez, quand je parlais du nous tout à l'heure en disant le nous ne peut pas nous permettre de rejoindre Dieu, je parlais du nous dans son activité intellectuelle, dans son activité propre. Il est évident que le nous, pris dans son enracinement de l'âme spirituelle, alors à ce moment-là, on est en présence d'une réalité, sujet de la grâce, et qui, lui, alors, est créé directement par Dieu. C'est l'âme spirituelle qui est créée directement par Dieu. Ce n'est pas le nous en tant que faculté, en tant que puissance. Ce n'est pas le nous en tant que source de la conscience. Vous voyez, il faut préciser, il faut bien comprendre cela. Parce que comment on aurait des confusions? Donc, l'âme spirituelle est créée directement par Dieu. C'est créée directement par Dieu. Elle est source d'être. Source d'être, parce qu'elle est source de mon être propre, personnel. Cette âme spirituelle créée directement par Dieu va fleurir, s'épanouir dans le nous. En tant que le nous est une puissance intellectuelle, source de la conscience. Et c'est de la conscience que je parlais tout à l'heure, en disant la conscience. Dieu n'est pas... Je ne peux pas découvrir Dieu au niveau de la conscience, mais je peux découvrir Dieu au niveau de mon âme spirituelle. Et alors, l'âme spirituelle, pour la comprendre parfaitement, il faut regarder où il y a. L'âme est substance. Mais le nous n'est pas substance. Le nous est dunamis. Donc, et puissance, faculté. Et c'est ce nous. Alors, vous voyez, c'est pour ça que quand on parle du nous, on peut parler. Puisque le nous, c'est l'esprit. Alors, quand je parle de l'esprit, ou je réduplique sur le côté de l'âme spirituelle, ou je prends l'esprit en tant qu'il est nous. C'est ça, les difficultés du langage. Hein. Il faut être très, très conscient de cela. Il faut comprendre chaque fois, dans un contexte différent, où c'est l'âme spirituelle qui est ousia, qui est substance, ou c'est le nous qui lui-même fait partie de l'âme spirituelle, il est impliqué dans l'âme spirituelle, le nous est ici, fait partie de l'âme spirituelle, ou le nous, je le prends comme dunamis, comme source de ma connaissance et de ma pensée. Et ma pensée, c'est justement dans l'ordre de l'intentionnalité. Oui. Donc il faut bien jouer le jeu. J'espère que vous voyez bien. L'esprit peut se prendre de deux manières différentes, autrement dit. L'esprit, je peux le prendre comme l'âme spirituelle, ou je peux prendre l'esprit comme le nous, dunamis. Alors vous avez dunamis et ousia. La dunamis, c'est la puissance, c'est la faculté. Alors à ce moment-là, j'ai le nous en tant qu'il est source de conscience, source de pensée, et je suis dans l'ordre de l'intentionnalité. Bon. Quand je n'ai pas de difficulté là-dessus. On m'a posé une autre question, j'y vais très rapidement là-dessus. C'est la question des termes de saint Thomas. C'est simplement une explication, c'est pour ça que je la donne tout de suite. Dans saint Thomas, il y a le langage ens, attendez, je vais le mettre au niveau. Ens, esse, quod est. Alors, saint Thomas n'hésite pas de dire que ens, id est, quod est. Donc vous pouvez traduire ens, ce qui est. Je crois que c'est la meilleure des traductions. Es, id est, quod est. C'est-à-dire ce qui est. Ne traduisons pas ens étant dans le contexte d'aujourd'hui. Parce que vous avez tout de suite heideggerien. Alors ça ne va plus du tout. Ce qui est pour saint Thomas n'est pas du tout l'étang de Heidegger. L'étang de Heidegger s'oppose à être. Tandis que ce qui est ne s'oppose pas à être. Il intègre l'être. Donc, ens égale ce qui est. Et esse égale acte d'être. La signification profonde de essai, je ne donne pas, parce qu'il y a, dans saint Thomas, il y a au moins 5 significations de essai. Il y a au moins 5, je crois qu'il y en a 6 ou 7, de signification de essai. Quelle est la signification métaphysique de essai? C'est acte d'être. Alors, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ens? C'est très simple. Saint Thomas n'hésite pas de faire le parallélisme entre blanc
nous avons déjà vu ça, blanc, blancheur. La différence entre S et SC est la même que blanc et blancheur. Il dit ça dans son commentaire du De Hebdomadibus. Alors, comme il n'est pas traduit, personne ne le regarde. N'est-ce pas? Ce commentaire du De Hebdomadibus est très intéressant. C'est un petit livre de Boès que saint Thomas commente. Et alors, il nous dit que S, SC, c'est la même différence que blanc-blancheur. Parce que blanc, c'est le concret, et blancheur, c'est l'abstrait. Qu'est-ce que c'est que blancheur? C'est ce par quoi le blanc est blanc. Qu'est-ce que c'est que les C? C'est ce par quoi NC et NC. Ce par quoi. Ce par quoi, donc, c'est bien l'acte d'être. L'acte d'être, c'est ce par quoi NC et NC. Et ça exprime, si vous voulez, le point de vue. Ça formalise. SC formalise NC. Comme blancheur formalise blanc. Tout en venir à blanc et blancheur, vous voyez. Vous n'avez pas l'expérience de la blancheur, si ce n'est idéalement. Mais vous avez l'expérience du blanc. C'est-à-dire, c'est plus tout à fait assez blanc. Il faut le laver. Mais vous n'avez pas lavé la blancheur. Ça fait partie des propagandes. Rien n'est au plus blanc que ça. Alors, ça fait la blancheur. Ce par quoi le blanc est blanc, c'est la blancheur. Alors vous avez une poudre pour la blancheur, mais c'est pas ça. Hein. C'est la poudre, c'est pour purifier quelque chose qui n'est pas assez blanc, pour qu'il redevienne blanc. La blancheur, vous n'en avez pas l'expérience. C'est comme l'essai. Vous n'avez pas l'expérience de l'essai, vous avez l'expérience de ens, ce qui est. Essai, ce par quoi ens. Très important, parce que vous n'avez pas l'expérience de laisser participer, par exemple. Parce que c'est ce par quoi ens et ens. Ça va comme ça. Et trois expressions. Ens, SC, quod est. Eh bien, quod est, ce qui est. Ens, ce qui est. SC, ce par quoi ce qui est est. Bon. Alors maintenant, revenons à nos moutons. Et nos moutons, c'est la substance. Alors, je vous disais tout à l'heure que nous avions trois siècles sur le dos qui nous en... quatre, même cinq, si je remonte jusqu'à Occam, c'est quelque chose. Alors, depuis le XIVe siècle, la substance est enfouie. Alors, il faut essayer de découvrir ce qu'est la substance. Remarquez qu'elle n'a jamais été totalement fouille. Hein. Il y a toujours eu une philosophie qui l'a maintenue. Le thomisme l'a maintenue. Mais le thomisme l'a maintenue, n'oublions pas, d'une façon qui est très, très matérielle, par le point de vue du sujet. Ce que vous voyez dans tous les manuels. Chercher dans un manuel thomiste que c'est que la substance, c'est le sujet. Et donc, ce qui prouve qu'on n'a pas maintenu la substance au niveau métaphysique. On l'a maintenue au niveau des catégories. Les catégories sont restées à travers tout. C'est normal. Mais au fond, nous n'avons plus le point de vue vrai de la substance. Alors, la substance étant niée, nous devons redécouvrir ce que c'est que la substance. Et puis ensuite, réfléchir sur ce qu'est la substance. Mais il faut redécouvrir si la substance existe. Est-ce que la substance existe? Or, comme la substance est un principe, je ne peux découvrir l'existence d'un principe qu'en saisissant ce qu'elle est. Les deux choses se tiennent. Si une réalité que je vois, je peux dire elle existe, voyez-la. Or, je ne la vois pas, la substance. Il faut tout de suite comprendre que je ne la vois pas. Je vois des réalités existantes, mais je ne vois pas la substance. C'est pour ça qu'on peut si facilement la nier. On l'a niée en fonction d'une philosophie idéaliste dont nous ne sommes pas d'accord. Mais non. Alors, je crois que nous pouvons, pour saisir la substance, reprend très très fort le principe d'Aristote, c'est-à-dire redonner valeur aux catégories. Je crois que c'est la première chose qu'on doit faire. Puisque les catégories, de fait, existent et tout le monde les accepte. Donc c'est une monnaie courante. Un peu usée, mais c'est une monnaie courante. J'ai le droit de prendre les catégories. Et j'ai le droit de prendre les catégories en voyant que, de fait, dans les catégories, il y a en effet des noms et des verbes. Et je vois que le nom, c'est ce qu'on appelle le sujet. Et ce sujet, mais oui, il est substance dans un langage commun. Le mot substance existe en français. Cherchez dans le dictionnaire, vous le trouverez. Et vous verrez ce qui est dit, hein, c'est intéressant pour ça. Petit Robert, regardez ce qu'il dit, petit Robert sur la substance. Je ne l'ai pas ici pour le dire, mais c'est intéressant de voir que le mot substance existe. C'est évident que ça existe. Et c'est un terme commun qui ramène tout simplement au sujet. Ce à quoi tout est attribué. La substance, c'est le noyau fondamental. Vous voyez, je reprends. C'est important, avant de rechercher l'existence de la substance, de comprendre que le mot existe. La signification profonde du mot, il faut la redécouvrir. Mais le mot existe. Et le mot existe parce que, justement, il y a une fonction particulière. Les fonctions, ça existe aussi. La fonction du sujet, la fonction de la substance, qui reçoit toutes les attributions. L'attribution principale que Pierre reçoit, c'est d'être homme. Ça, tout le monde l'accepte. On n'a pas encore inventé autre chose. On inventera le surhomme. Mais ce n'est pas encore Pierre, parce que le surhomme n'existe pas. C'est Pierre de demain. Alors, il sera surhomme. N'est-ce pas ? Mais au fond, Pierre, il est homme. Pierre, il est musicien. Pierre, il est intelligent. Pierre, il est en relation avec Jacques. Et ainsi de suite. Bon, je peux retrouver toutes les catégories. Ça, c'est pas de danger, c'est resté. Première chose à montrer, les catégories continuent d'exister. Ces catégories me montrent qu'il y a un sujet. Alors, est-ce que ce sujet que je peux appeler d'une façon commune substance, est-ce que c'est vraiment la signification philosophique et métaphysique de la substance? Vous voyez, je me retrouve exactement dans la même position qu'Aristote. C'est très curieux. Et c'est très vrai, parce que comme Aristote devait dépasser le platonisme, nous devons dépasser l'hégélianisme. Et nous devons dépasser Heidegger, qui est notre nouveau Platon. Mais nous devons dépasser l'hégélianisme. C'est la difficulté de dépasser l'hégélianisme. C'est pas commode du tout, parce que Hegel confond devenir et être. Alors nous devons dépasser, et c'est plus difficile, parce que quand même Platon distinguait devenir et être, tandis qu'Hegel ne le distingue pas. Donc on est retombé plus bas, si j'ose dire. On a perdu la distinction fondamentale des Grecs, qui était la distinction de l'être et du devenir, avec l'hégélianisme. Avec la méthode dialectique. On a supprimé ça. Et donc nous devons, avec les catégories, être en face de ce Goliath qui est Hegel et essayer de dépasser l'hégélianisme. Pour dépasser l'hégélianisme, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut redécouvrir la distinction de l'être et du devenir. Je ne peux absolument pas découvrir ce que c'est que la substance si je ne redécouvre pas la distinction entre le devenir et l'être. Et ce qui est. C'est la première chose que je dois faire. Parce que si je reste dans la confusion du devenir et l'être, je ne peux absolument pas saisir un principe d'être. Parce que quand je reste dans la confusion du devenir et l'être, le devenir m'apparaissant en premier lieu, je suis toujours piégé par le devenir. C'est le devenir qui s'impose à moi. Et alors je n'arrive plus à saisir l'être. Et c'est vrai, le devenir est quelque chose de plus immédiatement. On ne refuse pas le devenir. Vous voyez, quand on fait la confusion du devenir et l'être, pratiquement c'est l'être qui devient relatif au devenir. C'est pas le devenir qui devient relatif à l'être. Ça, il n'y a pas grand danger dans notre monde d'aujourd'hui. C'est vraiment le devenir qui enveloppe le devenir. Donc la première chose que je dois faire, c'est distinguer les deux. Ça, je crois que c'est très important. C'est ici où je reprends l'importance du jugement d'existence. Et catégorie et jugement d'existence. Si je n'ai pas les deux, je ne peux absolument pas montrer l'existence de la substance. C'est très curieux. Et c'est intéressant à ce point de vue-là. Vous voyez, c'est Aristote ne pouvait pas poser le problème de la substance avec autant d'acuité que nous. Parce qu'il avait Platon. Et qu'il n'avait pas ce qui niait la substance. C'est-à-dire que nous sommes obligés. Hoc portet hereses esse. N'est-ce pas? C'est que l'avantage de certaines hérésies, ça nous oblige d'aller plus loin. Ça nous oblige de préciser. Eh bien, l'avantage de Hegel, ça nous oblige de reprendre toute la force du jugement d'existence. Pourquoi? Parce que le jugement d'existence seul me fait comprendre que dans la réalité, ce qui est en devenir demeure toujours ce qui est, ce qui existe. Et donc, je peux, à l'égard de toutes les réalités, avoir un double regard. Je regarde cette réalité en tant qu'elle est, je regarde cette réalité en tant qu'elle devient. Je peux toujours avoir ce double regard, en tant qu'elle devient, en tant qu'elle est. Alors, si je ce double regard en tant qu'elle est et en tant qu'elle devient, je vois donc la distinction entre devenir et être. Je vois que cette distinction n'est pas une séparation, c'est une distinction d'intelligence. Et je peux me dire, je vais essayer de découvrir, alors c'est là, je reviens, je vais essayer de découvrir ce qu'il y a de premier, non pas dans le devenir, mais dans l'être. Dans le devenir, ce qui est le premier, c'est la forme, quand il s'agit d'un devenir artificiel. Et quand il s'agit d'un devenir naturel, c'est le point de vue de la phusis. Il faut donc essayer de découvrir comment le premier dans l'ordre de l'être est au-delà de la forme et au-delà de la phusis. Je peux aller plus loin et dire que